vous invite à prendre place. Nous avons été accueillis par un moment de réflexion et de silence par Adrien. Je vous invite au moment où nous allons lire la parole de nous recueillir à nouveau dans la prière pour cet accueil de la parole. Père Céleste, cette lumière, c'est aussi ta parole, c'est surtout ta parole qui nous apprend, qui nous révèle ce qui ne serait pas monté naturellement au cœur de l'homme. Et voilà que nous sommes devant ces textes. Nous voulons les accueillir par avance, nous rendre dociles et curieux aussi de voir ce que tu as voulu nous dire. Par ta grâce. Amen. Le texte du jour, eh bien, c'est un des trois textes proposés dans la liste de l'Avent, justement. C'est Adrien qui me rappelait que Jean-Baptiste est traditionnellement le personnage clé du deuxième dimanche de l'Avent. Donc nous lirons dans Luc, au chapitre 3, versets 1 à 17. Luc 3, 1 à 17, le même texte se trouve aussi dans Matthieu et Marc, avec quelques différences. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Iturée et du territoire de la Traconite, Lysanias, tétrarque de la Bilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe. La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance à cause du pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Jean-Baptiste disait donc à tous ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père. » Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Même déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, disant, « Que devons-nous faire ?» Il leur répondit que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas. Que celui qui a de quoi manger agisse de la même manière. Il vint aussi des publicains pour être baptisés. Et ils lui dirent, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. » Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie, il leur dit à tous, « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main. Il nettoiera son air. Il amassera son blé dans son grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Voilà jusqu'ici la parole de Dieu. Alors, il arrive que dans des livre sérieux, vous ouvrez un ouvrage de référence et vous trouvez une première page où il est écrit « Avertissement ». Ça va être un peu le cas pour cette prédication ce matin. J'ai un avertissement à vous faire. C'est qu'en fait, il arrive que la préparation d'une prédication sur la préparation à Noël ne se passe pas comme prévu. Donc, j'ai peiné à élaborer ce que je vais vous dire ce matin sans arriver finalement à sortir vraiment de ma peine. Pas ma tristesse, mais la difficulté à arranger les idées et à transmettre quelque chose de clair, de limpide. Donc, je vais illustrer mon propos par la situation suivante. Imaginez que vous invitez quelqu'un ou quelques-uns à un repas chez vous, un repas élaboré avec un entrée, plat, dessert bien arrangé. Rien ne va comme vous voulez, tout est raté. Donc, les invités arrivent et vous n'y avez rien sur la table. Eh bien, vous les amenez devant votre réfrigérateur, vous ouvrez la porte et puis vous dites à vos invités, ben voilà, tout est à vous. Donc ça va être un peu ce style ce matin. Vous êtes devant le réfrigérateur et je vais soulever quelques questions qui seront un peu différentes, qui ne seront pas arrangées, sont un peu différentes les unes des autres, mais qui seront autant de pistes pour éveiller peut-être chez vous une réflexion, voire une action. La première piste, c'est cette introduction bizarre de Luc, qui est donc un historien, médecin, qui se présente bien et qui a écrit cet évangile et le livre des Actes des Apôtres. Et il commence à perdre du temps, semble-t-il, au moins deux versets, à décrire dans le détail des choses qui sont sans intérêt, semble-t-il, puisqu'il parle de tous ceux qui régnaient à l'époque. Bon, c'est bien. Pour un historien, pour nous, est-ce que ça a du sens? Eh bien, c'est peut-être un peu la même chose que l'évangile de Matthieu qui commence avec une généalogie, tout comme Luc d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut retirer de ces précisions historiques? Alors, je vous propose la réflexion suivante à propos du sens de la fête et donc du sens de la fête de Noël. À travers le sens de la fête qui rythme l'année, qui sert de borne quelque part, à travers les fêtes en général, se poser la question sur, attention, ça devient compliqué, le sens de l'histoire. La façon dont on imagine le temps qui passe et la vie humaine et toutes les choses qui s'y passent. Et là, les Écritures ont quelque chose à dire. D'abord, en instaurant des fêtes juives. Nos arrière-grands-parents avaient reçu l'ordre de ponctuer l'année avec au moins trois fêtes. Alors, je le cite de mémoire, j'espère ne pas faire d'erreur, hein, mais parce que je n'ai pas révisé ce point-là en particulier, mais il y a la première fête, c'est, vous l'avez trouvé, c'est Pâques, la célébration de la délivrance de la sortie d'Égypte. Ça, c'est le phare, c'est la fête de Pâques, et il était hors de question de sauter cette fête. Ensuite, il y a la fête des moissons, et ensuite la fête des huttes. Je cherche des anciennes références, peu importe. En tout cas, il y a trois fêtes, je ne sais pas tellement important d'insister sur ça, mais ce qui est important, c'est d'insister sur l'idée que, ah oui, il y avait des fêtes. Et qu'est-ce qu'elles veulent dire, ces fêtes? Elles veulent dire tout simplement, Dieu est intervenu à un certain moment dans l'histoire des hommes, il a fait quelque chose, et ce quelque chose est si considérable qu'on va s'en souvenir. Pas comme une relique, pas comme nos photos qu'on met dans des boîtes à chaussures et qui sont autant de témoignages de choses passées, qui sont mortes, qui ne reviendront plus. Mais ces fêtes sont des témoignages d'une réalité qui se poursuit encore aujourd'hui. Ça, c'est le point clé. Dieu est intervenu dans l'histoire des hommes et nous en sommes encore aujourd'hui les bénéficiaires. Vous voyez le sens de l'histoire ? Ah oui, il y a des choses qui s'accumulent, mais ces choses qui s'accumulent, ce sont les choses de Dieu, les interventions de Dieu dans l'histoire des hommes. Voilà. Donc, à Noël, quel est le sens de la fête de Noël ? Eh bien, Dieu est intervenu, et comment ? Dieu est venu habiter parmi les hommes. Même les prophètes de l'Ancien Testament, nous est-il dit dans Pierre, qu'on essaie de comprendre, ils ont essayé de comprendre ces choses dont ils étaient les dépositaires, ces prophètes, mais ils avaient du mal à en voir. Et là, d'un seul coup, et Jean-Baptiste est le précurseur de cette annonce, c'est que Dieu va venir habiter parmi nous et il va réaliser certaines choses. Ça, c'est le sens de l'histoire. Sauf que, c'est là que ça devient un peu plus polémique et un peu plus difficile, c'est que la fête de Noël, déjà, ce n'est pas vraiment une prescription biblique en tant que telle. Si on voulait reprendre et poursuivre le travail des Israélites, nous prendrions les fêtes israélites. Mais Noël, vous le savez, il y a toutes des théories là-dessus, je ne suis pas un spécialiste, donc encore une fois, je vais donner que quelques pistes, mais c'est la christianisation d'une fête païenne. Alors, est-ce qu'elle est celtique ? Est-ce qu'elle est romaine avec les Saturnales ? Est-ce qu'elle est liée au culte de Mithra, la philosophie iranienne, la religion iranienne ? On ne sait pas trop, mais ce qui est à peu près établi, c'est que Jésus n'est très certainement pas né le 24 au soir, mais que c'était opportun pour nous de récupérer cette fête et de la christianiser. C'est une opère. Mais ça repose la question du sens de l'histoire. Donc pour nous qui célébrons Noël, nous devons veiller à ne pas tout doucement nous laisser peut-être un petit peu contaminer ou polliniser ou colorer par l'idée qu'il y avait dans la fête de Noël, c'est-à-dire l'éternel recommencement, c'est-à-dire la mort du soleil apparente et sa renaissance. Et c'est bien là un autre sens de l'histoire qui viendrait remplacer la pensée chrétienne de l'histoire continue dans laquelle Dieu intervient. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là que la pensée, on va dire païenne ou religieuse qu'il y avait dans les fêtes romaines, iraniennes, celtiques, c'est que la vie est un éternel recommencement. C'est un cycle. On passe par la vie, on passe par la mort et on revient. C'était vraiment ce sens. Donc, l'histoire n'a pas de fil conducteur, elle est juste un éternel recommencement. Alors, c'est un peu élaboré peut-être, mais il y a des voies ici ou là, dans des tentatives de syncrétisme ou d'accommodation, qui voudraient dire, mais le christianisme est d'accord avec cette idée-là aussi. Que c'est un éternel recommencement. Non, pas du tout. On attend quelque chose, et comme l'a dit Adrien, c'est curieux d'attendre quelque chose qui s'est déjà produit, mais ça va se continuer dans l'histoire. Et il y a une opposition, donc, entre la pensée non biblique de la fête de Noël et une pensée biblique. Et là, on avance sur un terrain bien sûr très délicat, parce que dans quelle mesure nous, en tant que communauté, ou nous en tant que chrétiens, on peut être en décalage, en contre-culture par rapport à ce qui se passe Noël. Et on va le voir avec l'histoire des deux tuniques, dont il faut en donner une. Si vous avez deux cadeaux de Noël, donnez-en un. Voilà, ça c'est l'histoire de... Ça, c'est la première pensée sur le sens de la fête. La deuxième pensée, c'est ce fameux prophète qui arrive, qui s'appelle Jean, qui est donc un contemporain de Jésus. Il est né à quelques mois d'intervalle, un peu avant Jésus. Et ses parents, la mère de Jésus et la mère de Jean, qu'on a appelé Jean le Baptiste ou Jean-Baptiste, sont parentes. Et Jean est dès le début annoncé comme étant le prophète qui va préparer l'avenue du Seigneur. Jean a un côté cool, un côté sympa, un côté décalé. Quand vous lisez la description de ses habits. Alors, c'est plus dans les autres textes de Matthieu et de Marc, mais Jean était habillé de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins, et il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Donc là, on se dit, waouh, on est dans l'alternatif, c'est une figure. Après, il aurait du succès aujourd'hui, je pense. Sauf que, au verset 7, au niveau homilétique, dans l'art de prêcher, il n'était peut-être pas tout à fait dans les codes d'aujourd'hui. Puisqu'il y a des tas de gens qui viennent le voir. C'est un réveil spirituel, ce qui se passe avec Jean le Baptiste. C'est extraordinaire. Il n'y a pas Twitter, ni Facebook, ni rien, ni personne. Il est installé dans la vallée du Jourdain. On est à une bonne journée de route à pied de Jérusalem. Même chose pour la Galilée. C'est un vaste territoire pour ceux qui n'avaient que leurs pieds pour se déplacer. Et voilà que Jean-Baptiste se paye le luxe de déplacer des foules de partout. Pour faire quoi ? Pour confesser ses péchés et être baptisé dans le Jourdain. Vous imaginez ? Alors là, c'est beaucoup moins glamour. Vous imaginez ? Mais comment ça a pu se passer même ? Techniquement, concrètement ? Jean le Baptiste était là, la personne arrivait, elle dit « voilà ce que j'ai fait, je me repens de l'avoir fait », et il est baptisé et la personne repart. Non seulement ça, mais il y a tellement de foule qui arrive qu'à un moment, Jean-Baptiste s'énerve. On dirait aujourd'hui il pète un câble, hein. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? On ne parle pas comme ça à des cherchants Dieu. Cette foule, bien sûr qu'elle est animée de bons sentiments, mais mêlée de toutes sortes de motivations. Bien sûr, il y en a qui sont proches de comprendre l'essentiel, il y en a d'autres qui sont très éloignés, qui viennent par conformisme, etc. Mais ça ne fait rien, on accompagne chacun à sa vitesse. Jean-Baptiste dit non. Vous êtes des fils du diable, parce que race de vipère, ça veut dire à peu près la même chose. En tout cas, vous êtes très tortueux et vous êtes en train de monter une stratégie d'évitement. Qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Ça veut dire qui vous a donné la recette pour éviter les conséquences du royaume qui vient ? Vous avez une stratégie là pour éviter la colère de Dieu. Mais ce n'est pas la bonne formule. Alors, mais il venait dans quel état d'esprit ? On peut déduire, semble-t-il, par le texte, que ceux qui venaient en foule et qui se font disputer très sévèrement par Jean, ce sont des personnes qui étaient, pour certains en tout cas, parce que, Dans Matthieu, c'est plutôt les responsables religieux que Jean dispute. Dans Luc, c'est tout le monde. Mais ça ne fait rien. En plus, Jean, il met tout le monde dans le même sac. Allez, c'est parti. Vous êtes tous animés d'un esprit qui fait que vous allez vous dire « Mais comment on va faire pour pouvoir éviter le face-à-face avec Dieu qui ne devrait pas se passer forcément bien ?» Eh bien, il veut débusquer chez eux deux réflexes peut-être. Le réflexe du refuge dans le rituel. On a parlé de la liturgie. Moi-même, je suis de culture familiale calviniste, hollandaise, très attachée à certains repères, à certaines pratiques qu'on peut très facilement remplacer par la vie spirituelle ou s'accrocher à quelque chose en se disant « j'ai là l'essentiel » alors qu'en réalité l'essentiel est en dessous, pas dans le rite lui-même, mais il a donné naissance au rite. Alors, en termes théologiques, on parle de signes et de choses signifiées. Alors je vais élaborer un peu. Là, dans le cas de Jean le baptiseur, Jean baptise en signe de la repentance et du pardon des péchés. Autrement dit, il y a quelque chose de caché qui ne se voit pas, qui est la repentance du fond du cœur et le pardon que Dieu déclare et donne à celui qui se repent, qui change d'attitude, qui fait demi-tour. Ça, c'est caché. Personne ne peut matérialiser cela. Et Dieu, dans sa bonté, il va donner à Jean un... C'est de tonnerre. Ça va, tout va bien. Dieu va donner à Jean le baptême qui va faire que les gens vont voir un signe qui correspond à quelque chose de caché qui est signifié. Voilà la différence entre le signe et la chose signifiée. Donc, Jean-Baptiste les reprend peut-être, ce n'est pas tout à fait explicite, mais j'ai l'impression qu'il le prend sous cet angle-là, donc du rite. Nous avons célébré Noël, tout y était, donc c'est le bon Noël. Il y avait la dinde farcie, il y avait la bûche, il y avait etc. Donc c'est Noël. Voilà un petit peu, en exagérant un peu, ce qui serait du ritualisme, c'est-à-dire la confiance dans des choses que l'on fait par rapport à des choses que l'on vit ou que l'on est appelé à vivre. Ou, si vous voulez l'exprimer autrement, la différence entre la pratique religieuse et la vie de Dieu dans le cœur. Qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Première stratégie, donc, s'accrocher au rite. Mais la deuxième, qui elle est très explicite, c'est l'identité religieuse. Vous avez vu comment Jean-Baptiste leur dit, mais dites donc là, si j'ai bien compris, vous dites que vous êtes fils d'Abraham, c'est-à-dire que vous êtes de la descendance d'Abraham, et que vous vous imaginez que c'est pour vous un refuge. Dit aujourd'hui, on dirait, ah, vous êtes baptiste. Ou vous êtes chrétien. J'avoue être inconfortable avec cette idée-là que je suis chrétien. J'aimerais pouvoir dire, non, je ne suis pas chrétien. Je suis, et même là c'est difficile, mais je suis disciple de quelqu'un qui s'appelle Jésus, le Christ. Je le suis, lui. Je l'écoute, ou j'essaie de l'écouter, j'essaie de mettre en pratique ce qu'il m'a enseigné. Parce que le mot chrétien, quelque part, il est un peu piégé. Il est laïcisé aujourd'hui, il est repris sous l'angle de l'étude des religions ou l'étude du fait religieux, et on l'analyse sous cet angle-là. Très rarement, vous entendrez quelqu'un dire « Non, je ne suis pas catholique, je ne suis pas protestant, je ne suis pas évangélique, je suis disciple de Jésus-Christ. » Ce n'est pas fréquent. Et voilà ce que Jean-Baptiste a envie de détruire. Parce qu'il dit, il n'y a pas d'alternative. Le royaume arrive. Vous allez l'accueillir, mais vous n'aurez pas le choix de la stratégie pour l'accueillir. Ce n'est pas quelqu'un qui va. Le royaume de Dieu n'est pas un événement qui va se placer dans les lieux somptueux de la capitale Jérusalem. Vous êtes venu me voir, moi, c'est très bien, je suis rien, je suis insignifiant, mais il en arrive un autre, et avec lui, vous ne pourrez pas négocier. Alors, on a fait le reproche, je ne sais pas si je vais arriver à tout vous présenter mon réfrigérateur, je vais sauter des étagères. On a fait des reproches au christianisme en disant, vous avez construit dans le cœur des gens un truc qui est vraiment très néfaste et toxique, c'est le sentiment de culpabilité. C'est le reproche que l'on nous fait. Et les personnels soignants, particulièrement dans le domaine de la psychologie ou de la psychiatrie, certains en tout cas vont dire, mais vous vous en sortirez que quand vous aurez réglé et déconstruit vos complexes de culpabilité qui vous enferment. Eh bien, je vous annonce une bonne nouvelle au nom de Jésus-Christ. L'annonce du péché
c'est la meilleure nouvelle qui puisse jamais vous arriver. Parce que connaître son péché, c'est la libération. Confesser son péché, c'est la libération. Vous avez essayé ? Amen. Pas devant les autres, pas encore, peut-être ça viendra. Mais d'abord, tout doucement, dans votre cœur, vous vous dites, bon, qu'est-ce qu'il y a chez moi qui est manifestement opposé à la volonté de Dieu ? Là, je suis en train de désobéir. Là, j'entretiens quelque chose, et ça peut être que des pensées, hein. Là, j'entretiens quelque chose qui est manifestement pas du royaume. Eh bien, vous allez loin de tout, où on ne peut pas vous entendre, mais vous dites à haute voix, « Seigneur, j'ai tendance à regarder les femmes d'un œil complaisant. Seigneur, je n'arrive pas à me détacher, ce qu'on a abordé la semaine dernière, à me détacher de l'envie, de la peur de manquer. Donc je cherche à posséder. Seigneur, je suis violent, méprisant. J'ai vu encore la semaine dernière avec mon collègue, ma collègue. Voilà. Des choses, c'est des pistes, hein. Moi, je sais pas, il y en a bien d'autres, sans doute. Le péché est très imaginatif. Mais c'est une bonne nouvelle. Parce qu'arrivés à ce point, nous pouvons être sûrs. Et c'est là où il ne faut pas rater l'étape d'après. Vous pouvez être sûr que la promesse de Jésus, que Jean, l'évangéliste, va rappeler, l'apôtre, si nous confessons nos péchés, il est fidèle, il est juste pour nous les pardonner. La religion chrétienne, si on veut parler en termes laïques, est la seule qui propose une sortie du péché. Il n'y en a pas d'autre. Cherchez. Vous verrez des montages particulièrement vicieux qui vont faire croire, dans les religions, qui vont faire croire que l'issue est par là. Et curieusement, ça va aboutir à la violence ou à l'asthénie ou à l'apathie, c'est-à-dire vouloir lutter de manière alternative qui n'aboutisse à rien. Donc voilà les stratégies d'évitement que Jean le Baptiste a voulu détruire. Il va falloir appeler un chat un chat. Alors ça trouble énormément son auditoire et les gens qui sont venus l'écouter lui disent « Mais qu'est-ce qu'on va faire alors ? On est venu, on a confessé nos péchés, on s'est fait baptiser, tu nous disputes, on va où ?» La foule l'interrogeait disant « Que devons-nous faire ?» Il leur répondit que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas et que celui qui a deux repas partage l'un des deux repas avec quelqu'un. Je paraphrase, que celui qui a de quoi manger agisse de même. Voilà, on arrive dans la théologie pratique, hein, dans l'éthique. Je pense que si l'État français, particulièrement les services de renseignement, étaient au courant du fond de la, peut-être plutôt le ministre de l'économie, s'ils étaient vraiment au courant du fond de ce que pensent les chrétiens ou de ce qui est enseigné là, je pense que nous aurions des ennuis. Parce que cet enseignement est radical. Est-ce que vous mesurez à quel point il n'est pas compatible avec le modèle de société dans lequel on est? C'est tout simplement pas possible. Vous ne pouvez pas écouter Jean-Baptiste qui vous dit « Vous avez deux manteaux ? Ben vous donnez un des deux manteaux. Vous en avez cinq ? Non, vous en avez dix. » C'est divisible par deux. « Vous en avez dix ? Ben vous en donnez cinq. Ou même neuf. Vous avez à manger ? Ben vous partagez. » Et vous avez remarqué comment cette marche dans le royaume, parce qu'il s'agit de ça en fait. Vous êtes citoyen du royaume, vous marchez dans le royaume, comment on marche ? Comment on vit pratiquement dans le royaume ? On vit comme ça. Comment c'est différent avec un discours qui, au premier abord, est exactement le même aujourd'hui ? Nous avons trop d'habits. Il faut nous séparer de notre surplus et le recycler, etc. Nous mangeons trop.
il faut manger moins et moins de viande, etc. Mais la fondation pour ces enseignements d'aujourd'hui, qui deviennent vraiment un catéchisme, moi ça me commence à me fatiguer un peu, je ne suis pas contre, je réfléchis au fondement. Il n'est pas question de soulager les frères et sœurs autour de nous. Il est juste question de ne pas épuiser la planète. Ce n'est pas le bon argument. Ici, Jean-Baptiste est entièrement dirigé vers la relation des hommes entre eux. Ah, vous avez trop pour vous vêtir, dessaisissez-vous. Mais en donnant à celui qui a dans le besoin. Même chose avec la nourriture. Paul dira quelque chose d'encore plus redoutable. Il dira celui qui a la nourriture et le... Si nous avons la nourriture et le vêtement, ça nous suffira. Désolé, je n'ai pas la référence là sous le coude. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Hein, moi, je dis, ça ne fait quand même pas beaucoup. Hein. Ça ne fait vraiment pas beaucoup. Alors, par le vêtement, il faut entendre la protection contre les intempéries. Donc, on va peut-être pouvoir y mettre la maison quand même. Alors, il vient aussi des publicains, c'est-à-dire que ce sont des employés du gouvernement d'occupation, vraisemblablement, qui prélèvent les taxes et les impôts. Et il demande qu'est-ce qu'ils doivent faire et il leur répond « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Donc tous ceux qui sont motivés ou qui ont affaire avec le milieu de l'argent, des échanges ici, il leur dit « Mais restez-en au cadre initial, ne profitez pas de votre situation pour aller au-delà. » Donc tout ce qui est évasion fiscale, etc., donc pourrait rentrer également dans cet ordre. Et ces conseils pratiques de Jean le Baptiste ont fait l'objet de recherches très approfondies sur quels sont les métiers licites pour un chrétien et quels sont les métiers qu'on ne peut pas accomplir. Ah, ça, c'est une grande question. Et là, curieusement, Jean-Baptiste, il y répond de manière tout à fait claire. Il dit bien, à l'intérieur du cadre de l'exercice professionnel ou de votre exercice, restez dans le cadre. Ne profitez pas de votre situation. C'est encore plus clair avec les soldats. Et là, c'est peut-être en embryon ce qui a donné les recherches du siècle dernier sur les droits de la guerre et sur les crimes de guerre, puisqu'il dit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers les personnes. Sous-entendu, en utilisant votre statut de soldat. Puisque vous avez la force, la domination de votre côté, n'utilisez pas cette situation pour enfreindre, pour martyriser votre prochain. Voilà donc une nouvelle étagère concernant jusqu'où va cette repentance, cette confession des péchés et cette marche dans le royaume. En conclusion, j'ouvre la partie haute du réfrigérateur où il y a les choses sucrées généralement congelées. Ça va être là et on va conclure avec ça. Tout le monde se demande si Jean n'est pas le Messie tellement c'est saisissant ce qu'il dit. Alors il est très clair, il dit non, il y en a un autre qui vient après moi, c'est lui que vous allez suivre. Et lui, que va-t-il faire? Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Voilà son ministère. Et devant ce que vous avez entendu de Jean-Baptiste, que j'essayais un peu de vous retranscrire, vous êtes peut-être profondément découragé. Et vous vous dites, oh là 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 là, ça va être dur là, cette marche dans le royaume. C'est là où nous allons découvrir la puissance de régénération et de vie que Jésus lui-même a apporté par sa venue dans le monde. Il a dit, ne faites rien avant que je vous envoie le Saint-Esprit. Et c'est la fête de la Pentecôte. Ne bougez pas, parce que c'est lui qui va vous faire marcher. C'est lui qui va vous faire grandir. Vous allez être animés de l'Esprit, et c'est la vie de l'Esprit qui va pouvoir contrer ces puissances de mort et de destruction qui sont de par le monde. Je vous invite pour clore à relire le chapitre 8 de Romains, qui commence avec, ou juste peut-être la fin du chapitre 7, « Qui nous délivrera de ce corps de mort ?» Et Paul dit « La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Donc voilà ce Jésus dans lequel nous croyons va nous donner en plus toute cette nouvelle nature animée par l'esprit qui va nous permettre de préparer Noël de la meilleure manière. La grêle faisant concurrence au prédicateur, on va s'arrêter là et on va méditer un petit peu la prédication, ce texte, avec la préparation pour le chant qui vient, qui nous dit « Aube nouvelle ». C'est le thème de la lumière qui a déjà été évoqué. Nous allons lever les yeux parce que c'est la lumière qui est devant. Tout a changé.